Bonjour et bienvenue, ce message vous est présenté par le Centre d'Adoration Vie Abondante, en sigle SAVA. Notre désir est que en l'écoutant vous soyez révolutionnés par une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et que votre passion pour Dieu s'intensifie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 1-617-387-12-44 ou à l'adresse email suivante info@laviabondante.org. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Donc, nous sommes, j'espère qu'on a tous eu l'occasion de méditer sur tout ce que nous sommes en train de partager depuis qu'on a commencé. Et d'ailleurs, le seul moyen pour toi de commencer à voir un changement, c'est de méditer. Pas simplement écouter, mais d'aller méditer. La méditation te permet à la parole de Dieu de confronter l'erreur dans ton cœur, de confronter l'égarement dans ton cœur. La méditation de la parole de Dieu te permet de confronter l'égarement dans ton cœur. Alors, il ne faut pas seulement se réjouir d'écouter, mais d'aller méditer. Amen. On a commencé, nous sommes en train de parler de l'importance d'obéir à Dieu et d'obéir à sa parole. La Bible nous dit dans le livre de le psaume 119, verset 4, que j'ai demandé qu'on puisse vraiment, si on peut, non simplement méditer, connaître, mais même mémoriser. Ok? Psaume 119, verset 4 dit, Dieu dit ceci, « Tu as prescrit tes ordonnances pour que on les observe avec soin. » Et j'ai dit hier que la parole de Dieu est comme un médicament que tu prends, qui peut te restaurer, qui peut te guérir, qui peut te propulser. La parole de Dieu résout tous les problèmes de nos vies. La parole de Dieu n'est pas intimidée. D'ailleurs, Dieu dit ceci, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Comme pour dire, s'il y a un problème dans ta vie maintenant, la parole de Dieu est suffisante pour te sortir de ce problème. La parole de Dieu est suffisante pour guérir les maux de ton corps, les maux de ton âme. La parole de Dieu est suffisante pour guérir ton passé, te propulser vers ton avenir. La parole de Dieu est suffisante pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Mais Dieu dit que pour que cette parole commence à avoir son effet dans ta vie, il faut que tu puisses la pratiquer ou que tu puisses l'observer avec soin. Parce que Dieu dit que sa parole, c'est comme une prescription. Il dit, tu as prescrit tes ordonnances. Tu as prescrit tes ordonnances. Autrement dit, Dieu sait que sans sa parole, nous ne sommes rien. Alors, on va chez lui comme des malades et Dieu nous donne sa parole comme prescription. Amen. Alors, il dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et nous avons dit, avec soin, c'est mettre la parole de Dieu en pratique jusqu'à la dernière lettre. Ne fais pas à moitié, ne fais pas la parole légèrement. Tu ne peux pas voir le résultat dans ta vie tant si tu mets la parole de Dieu, si tu la mets en pratique d'une manière légère ou à moitié. Et dans le psaume 119, on a dit ceci, la parole dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole ?» Autrement dit, si on a tous une destinée. On emprunte un sentier pour arriver quelque part. Et si tu veux arriver quelque part, si tu veux atteindre les promesses que Dieu a pour toi, Dieu dit tu dois diriger ta vie d'après sa parole pour rendre ton sentier pur. Nous avons aussi vu qu'il y a certaines personnes dans la Bible qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique et ont commencé à avoir des problèmes. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu commences à expérimenter. En fait, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu invites les problèmes dans ta vie. Est-ce que vous savez que tout ce que nous expérimentons dans la vie est toujours résultat ou conséquence d'une action qu'on a menée, une action qu'on a menée, ok? Et quand tu n'obéis pas à Dieu, tu ouvres la porte à la médiocrité, tu ouvres la porte aux maux. Saül, qui était roi, Dieu l'a béni pour être roi. Il a désobéi à Dieu. Il a suivi la parole, il a obéi à moitié. Vous savez que l'obéissance à moitié, c'est vraiment comme la désobéissance, n'est-ce pas? Elle me dit que si tu obéis, si tu transgresses, ok, si tu transgresses une loi, tu as transgressé toute la loi. Si Dieu te donne une prescription, tu la mets en pratique et tu la mets avec soin. On a vu comment le roi Saül, le roi Saül a perdu le royaume parce qu'il n'a pas écouté. Ok, chaque fois que tu n'écoutes pas, tu perds des choses dans ta vie. Chaque fois que tu n'écoutes pas Dieu, tu perds des choses dans ta vie. Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas écouté. Le territoire que Dieu te donne, si tu ne pratiques pas sa parole, tu vas perdre des territoires dans ta vie. En fait, tu vas vraiment vivre une vie de médiocrité parce que tu ne mets pas. Chaque fois que tu ne mets pas en pratique, tu perds des choses. Ok, Samson n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, il a perdu l'autorité qu'il avait. Adam et Ève, la même chose. Saül a perdu le royaume parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait. Israël a pris beaucoup de temps pour arriver à destination parce qu'il désobéissait Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de perdre en ne mettant pas la parole de Dieu en pratique? On a vu comment le prophète lui a rencontré le lion sur son chemin parce qu'il n'a pas écouté Dieu. On a vu comment Jonas a été jeté hors du bateau parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Je voudrais vous montrer encore un autre exemple de la conséquence de la désobéissance. Ici, nous sommes en train de parler de... Je vais vous montrer, c'est Moïse. Ok? L'Éternel parla à Moïse et dit... Prends la verge et convoque l'assemblée. Ok? Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Bien aimé, est-ce que tu peux parler à un rocher et le rocher donne de l'eau? Ça, c'est un miracle. Laissez-moi vous dire ceci, bien aimé. Que les miracles de Dieu se trouvent dans l'obéissance à sa parole. Tout ce que Dieu demande, en fait, tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est si tu veux voir une démonstration de Dieu, obéis simplement à sa parole et lui fais le reste. Il ne te demande pas, toi, d'aller faire sortir de l'eau. Non, lui va le faire. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est obéir à la parole. Deux fois, on est un peu confus. On pense que Dieu est comme un sorcier que tu vas voir, un marabout que tu vas voir, ou bien un vaudou que tu vas voir. Ok? Il va te faire un peu d'abracadabra, et puis bam, il y a la solution. Non, 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 non. Dieu te donne une instruction, tu la mets en pratique, toute ta vie devient miracle. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, toute ta vie devient un miracle. Voilà l'instruction. Dieu n'a pas dit. Dieu dit ceci. Voilà ce que tu vas faire. Convoque l'assemblée. Et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Voilà le rocher. Dieu dit, parle au rocher, parle au rocher. Et voilà ce qui va arriver. Si tu parles au rocher, le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abrèveras l'assemblée et leur bétail. En fait, ce qui s'est passé ici, Moïse a fait la bonne chose, ok? Moïse, après avoir entendu Israël se plaindre, Israël se plaignait, il n'y a pas d'eau. Israël, Moïse dit, bon, ok. Il va devant Dieu, là, il me dit, il entre devant Dieu, il prie. Quand tu as un problème, ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher qu'est-ce que Dieu dit de ce problème ici. Voilà, Dieu a une instruction pour tous les problèmes. Ce que nous, on doit faire, c'est de savoir ce qu'il dit de ce problème. Alors Moïse va devant Dieu, dit, dis-moi un peu, qu'est-ce que je fais de ce problème? Dieu lui dit, voici ce que tu vas faire. Prends Aaron, allez parler au rocher. Est-ce qu'on peut dire instruction? Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit la verge. La suite, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée. Là, il est en train de suivre les instructions. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Ah! Dieu avait déjà dit, par le rocher, l'eau va sortir.
Moïse commence à s'égarer déjà. Il s'égare déjà en langage. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit l'eau sortira. Mais lui va devant l'assemblée, il dit autre chose. Là, il commence à s'égarer. La suite. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Il a désobéi. Suivez. Il a frappé. L'eau est quand même sortie en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. L'eau est sortie parce que Dieu voulait montrer à l'assemblée qu'il est Dieu quand même. Vous me suivez? C'est à cause de l'assemblée que l'eau est sortie. Me suivez? Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Vous savez que Moïse avait beaucoup souffert pour faire sortir Israël. Mon frère, tu viens de trop loin pour faire les bêtises maintenant. Et Dieu, je vous assure, je me suis rendu compte d'une chose. La désobéissance est intolérable. Moi, je dis, Seigneur, ce Moïse t'a servi avec fidélité. Ah, faut pas blaguer. Moïse t'a servi avec fidélité. Il arrive ici. Il commet un dégât. C'est le seul dégât, d'après ce que je me rappelle dans cette Bible, que Moïse a commis. Il frappe deux fois, Dieu dit ça va. Au parking. On va te garer. On va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Vous savez quoi? Quelqu'un d'autre est en train de jouir de ce que toi tu devais jouir depuis longtemps. Toi, tu as tout fait. Tu arrives jusqu'ici. Tu perds. Quelqu'un d'autre vient en retard. Faut pas blaguer avec Dieu. Faut pas blaguer avec Dieu. Tout ce que tu auras fait de toute ta vie, tu risques de le perdre. C'est pour ça que je disais l'autre dimanche, on ne vend pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. La volonté de Dieu, tu l'observes jusqu'à la fin. Tu as bien commencé, mais est-ce que tu es en train de continuer? Hier, je vous ai dit ceci. Dieu dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve, serait comme les flots de la mer. Il y a un autre passage que j'ai trouvé pour vous et pour nous, et je pense que ça va dans le même sens, mais j'ai trouvé qu'il expliquait mieux ce que Dieu voulait dire. Il dit, j'ai aimé comment c'est exposé. Il me dit ceci, si vous avez de la bonne volonté. Bien-aimé, à propos, l'obéissance à la parole de Dieu dépend de ta volonté. Ce n'est pas comment tu te sens. Aujourd'hui, je me sens bien, j'obéis. Demain, je me sens bizarre, je désobéis. Non, ça n'a rien à voir avec comment tu te sens. Tu peux être fatigué, mais si Dieu t'a dit, lève-toi et fais, tu vas te lever malgré la fatigue. Ça n'a rien à voir avec comment je me sens aujourd'hui, je tousse un peu aujourd'hui. Si Dieu a dit, si Dieu, quel que soit comment tu te sens, Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Pas simplement les productions, mais les meilleures. Je voudrais demander à quelqu'un ici, si tu penses que maintenant tu es en train de bouffer les meilleures, si tu ne bouffes pas les meilleures, il est temps d'aller poser des questions à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Où est-ce que je suis en train de me tromper? Bien-aimé, êtes-vous d'accord que cette parole est vraie? C'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit ça, il ne dit pas ça pour qu'on se sente bien, non. Il dit ce qu'il a vraiment réservé pour nous. Il dit, tu mens, ça devrait être, bien-aimé, ça devrait être meilleur. Il dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais il dit, c'est si vous êtes docile, la condition, c'est qu'on doit être docile. Alors, vous savez c'est quoi docile? Docile. Je suis allé voir le mot docile. Je vais vous donner quelques synonymes du mot docile. Docile, veut dire, docile veut dire obéissant, c'est simple. Docile veut dire obéissant, mais docile va plus loin. Soumis. Docile veut dire discipliné. Bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu demande beaucoup de discipline. Si tu veux obéir à Dieu, tu devrais être discipliné. Vous savez ce qu'est être discipliné? Être discipliné, c'est se soumettre à des règles jusqu'à avoir les résultats. C'est ça la discipline. Tu te soumets à des règles jusqu'à avoir le résultat. Quelqu'un de discipliné, par exemple, les sportifs sont disciplinés. Pourquoi? Ils cherchent à être fit, cherchent à être en forme, voilà, hein, en bonne condition physique. Comme ils cherchent ça, ils se soumettent à des règles. Ils ne mangent pas ceci, ils ne mangent pas cela. Ils se disent, je dors à telle heure, je me réveille à telle heure. Ok, toi tu veux voir Dieu agir. Tu dors à n'importe quel moment, tu racontes des bêtises, ton temps n'est pas contrôlé, tes horaires n'est pas géré. Ta vie est en désordre. Il n'y a aucune discipline. Comment tu vas voir Dieu agir? Comment tu vas voir Dieu agir? Si tu es discipliné, si tu es soumis, si tu es obéissant, si tu es subordonné, si tu es gouvernable. Vous connaissez les chevaux? Les chevaux? Ou bien vous connaissez le gouvernail? Les grands bateaux, hein? Les bateaux de gouvernail. C'est ça, non? Le gouvernail conduit le bateau où le gouvernail veut. Pas le bateau. Bien que on voit le bateau, mais il y a ce petit instrument-là qui conduit le bateau. Donc, on voit ta vie. Mais il faut que dans le lieu secret, il y ait un Dieu qui te conduise. Même si nous, on ne comprend pas où tu vas. Même si nous, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux faire. Même si les gens ne savent pas. Toi, tu fais ce que Dieu te demande. Est-ce que vous me suivez un peu? Le gouvernail te conduit. Si on te dit, mais où tu vas? Tu dis, excusez-moi, le gouvernail en moi est en train de me dire quoi faire. Même si vous ne me comprenez pas, attendez, vous verrez le résultat. Parce que le gouvernail ne ment jamais. Si tu es gouvernable, le dernier synonyme que j'ai vu, c'est si tu es maniable. Donc on te prend, on te forme comme ça, on te donne une forme que tu veux sans que tu te battes tout le temps en train de résister. Ok? Donc, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui veut manger les meilleures productions du pays? Dis-moi, Seigneur, moi, Seigneur, je vais manger les meilleures productions du pays. Quand je regarde à cette économie, je regarde à ce pays, quand je vois, les choses ne s'améliorent même pas. Tantôt, c'est des volcans et là-bas, tantôt, c'est, on a, il y a toujours des mauvaises nouvelles cataclysmiques. Toujours, et je me dis, pour s'en sortir, bien-aimé, il faut que le gouvernail te conduise. Ah oui. Ah oui, n'ose pas, écoute mon frère, n'ose pas ma soeur, n'ose pas faire les choses de propre force. Est-ce que ce que tu fais là, le gouvernail t'a dit? Tout ce que tu essayes de faire, est-ce que le gouverneur a parlé? Les miracles de Dieu se trouvent dans l'obéissance. Et nous avons dit hier que l'obéissance est une attitude de cœur. Tu n'obéis pas un jour, mais tu obéis. Ta vie doit être une vie d'obéissance. Je voulais vous montrer ce passage. Ici, la Bible dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi vous m'appelez Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Autrement dit, arrêtez de m'appeler Seigneur, ce n'est pas la peine. Parce que vous ne faites pas ce que je dis, ne m'appelez pas Seigneur. Qu'est-ce que Seigneur veut dire? Un Seigneur, un seigneur, c'est un maître, un propriétaire. Ok? Il règne. Un seigneur règne. Il est au contrôle des choses. Un seigneur dit les choses et les choses prennent place. Mais dans ta vie, Dieu arrête de fonctionner en tant que seigneur parce que tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Vous me suivez? Alors, ici, quand Dieu dit, tu ne fais pas ce que je dis, vous pensez que c'est quoi? Pas simplement, écoutez, tu ne fais pas ce que Dieu t'instruit par sa voix, tu ne fais pas ce que Dieu te dit par sa parole écrite. Donc, tu désobéis. Si tu désobéis à un commandement, tu es en train de désobéir à tout. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je fais. Et puis j'aime bien. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il dit deux fois, comme on passe le temps, Seigneur, 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 arrête, arrête. C'est que Dieu dit, arrête. Seigneur, moi, oh Seigneur. Il dit, non, 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 stop, stop. Pourquoi tu insistes sur m'appeler Seigneur pendant que ce que je dis, tu ne le fais même pas? Dieu dit dans Malachie, c'est mépriser Dieu, le mépriser ou le manquer du respect. On a dit que l'obéissance à Dieu est une attitude de cœur. C'est ton cœur, quand ton cœur est attaché à Dieu, quand ton cœur aime Dieu, tu commences à l'obéir. Quand ton cœur est attaché à Dieu, tu commences à l'obéir. Quand ton cœur est plein d'amour pour Dieu, tu commences à l'obéir. Donc pour obéir Dieu, ça devrait beaucoup plus être le souci de ton cœur. Pas simplement une chose que tu fais mécaniquement, mais ça doit être une passion de ton cœur d'obéir à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Bien, mais je vais vous dire une chose. Parce que Dieu a des problèmes avec ce qui prend sa place dans ton cœur. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas l'obéir longtemps. Parce qu'à un moment, il va te dire, donne-moi la chose que toi tu aimes le plus là. Il demande ça. Donc si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'es pas passionné, tu vas arrêter. Tu vas arrêter en chemin. C'est pour ça que, écoutez, si ton Dieu n'existe que seulement pour lui demander, donne-moi la voiture, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi... Fais attention. Parce que plus tu t'approches, il va maintenant te demander les choses que toi tu demandes là. Parce qu'il prenne ton cœur. Aimer Dieu doit être une passion. Quand tu aimes Dieu passionnément, il n'y a plus rien qui t'empêche. Bien-aimé, le travail qu'on fait pour Dieu, servir Dieu, tu ne peux pas chercher à être confortable et servir Dieu. Non! Quand Dieu entre dans ta vie, il va commencer d'abord par bouger ton bateau. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ton horaire à toi et tu veux servir Dieu. Non! Écoutez, tu veux obéir Dieu, tu dois être malléable. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il donne un ordre. Ça s'exécute dans ta vie. Mais s'il y a trop d'excuses, il n'est pas en train d'agir. Parce qu'il y a trop d'excuses dans ta vie. Bouge comme ça. Non, mais parce que je voulais. Mais fais ceci. Non, parce que je voulais faire. Mais va là-bas. Non, parce que je vais. Mais il y a toujours d'excuses. Ta vie n'est pas encore malléable. Tu donnes trop d'excuses. Dieu dit à Abraham, lève-toi et pars. Abraham, donne-moi ton fils. Le monsieur ne discute même pas. Vous pensez que c'était facile de donner le fils? Entre nous, vous pensez que c'est facile? Tu dois avoir élevé Dieu au-dessus de ta propre vie pour faire quelque chose de comme ça. Tu dois avoir dit à Dieu, tu peux tout prendre. C'est en ce moment-là que tu commences à obéir Dieu. Bien-aimé, faites attention de... Écoutez, si tu vois quelqu'un que Dieu est en train d'élever, fais attention, tu ne sais pas ce qu'il a donné. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il a donné. Si tu as envie de jouer à la cour extérieure, c'est pour les enfants. Les enfants sont à l'extérieur. Un enfant te dit, viens ici. Non, papa, non, je veux... Israël, lève-toi, on va à la toilette. Non, mais le garçon a 2 ans. Pour aller à la toilette, on discute avec lui. Israël, viens manger. Non, les enfants, non. Vous savez de quoi je parle, non? Vous êtes des petits-enfants. Fais ceci. Non, tu lui dis non, il va toucher. Non, pas là-bas. Il fait le contraire. Ça, c'est les bébés. Passe le temps à l'extérieur, résiste Dieu tout le temps. Des chrétiens, malgré le nombre d'années, passant le temps à résister Dieu. Mais tu ne vas rien voir dans la vie. Tu ne vas rien voir. Tu n'es qu'un bébé. Fais ceci. Non, 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 non. Tout le temps en train de dire non. Quand est-ce que Dieu va t'utiliser? Dieu a besoin de t'utiliser, mais ça va demander un prix à payer. Il y a un prix. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'es pas prêt à te soumettre à lui. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Comme pour dire, bon Seigneur, voilà. Écoutez, je vais vous dire une chose bien aimée. Il y a des choses tellement puissantes que Dieu doit amener dans nos vies. Tout ce qu'on reçoit en dehors, là, les bonbons, les chewing-gum. Tout ça, c'est pour les gens qui veulent jouer à l'extérieur. Ils sont contents avec des petites cravates, tout ça là. Mais ce que Dieu veut faire avec toi, c'est l'influence des nations. Vous comprenez un peu? Ce que Dieu veut faire avec toi, ça va au-delà de tes propres. Tu ne peux même pas rêver, c'est trop grand. Et pour arriver là, ça va demander une soumission à la parole de Dieu. Quand il te parle, il n'a pas besoin de discuter avec toi. Quand il te parle, tu réagis. Il te parle, tu es prêt. Dis-moi Seigneur, envoie-moi où tu veux. Parle simplement et je m'exécute. C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, écoutez, on veut tout ce que Dieu parle. On veut tout ce que Dieu parle. Il faut faire attention. Parce que ce n'est pas garanti que si Dieu te parle, tu vas faire. Vaut mieux encore que tu n'écoutes rien que d'écouter et ne pas faire. Parce que là, maintenant, c'est, tu attires la le pénalty. Vous connaissez l'histoire de Saül, le prophète Samuel. La Bible dit ceci, que Dieu appelle Samuel une fois. Samuel, au lieu d'aller vers Dieu, il va vers un homme, il va vers Élie. À la troisième fois, Élie dit à Samuel, écoute, ne viens pas chez moi, c'est Dieu qui t'appelle. Si tu veux entendre le son de Dieu, dis, voilà ce que tu vas dire à Dieu. Parle, ton serviteur, écoute. C'est une attitude. Fais ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à m'exécuter. Quand Samuel a dit ça, Dieu a commencé à parler. Autrement dit, Dieu ne sort pas sa parole puissante qui va te restaurer. Tant que tu passes ton temps à te battre avec lui en train de résister, il va attendre jusqu'à ce que tu vas dire, fais de moi ce que tu veux. Là, la parole sort. Tu veux que la parole sorte? Tu dois lui dire, fais de moi ce que tu veux. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Je prie que quelque part, tu prennes une décision de dire à Dieu, je suis fatigué des petites choses. Je vais quelque part, tu te dis, Seigneur, je suis fatigué. C'est trop minable ce que j'ai. Et pourtant, la promesse est trop grande. Mais c'est trop grande. Il y a prix à payer pour voir Dieu. Tu dois payer ce prix-là. C'est toujours une histoire de cœur. Si ton cœur, si dans ton cœur, tu es prêt à le servir, tu vas le voir se manifester. La Bible dit ceci. David dit, le psaume 119 dit, je sers ta parole, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ton cœur. Si ton cœur est disposé, tu vas voir Dieu. C'est pour ça que Dieu a préféré dire, écoutez, ce que je contre vous, c'est comme votre amour s'est refroidi. Vous êtes refroidi, Viens prier, tu donnes un peu d'explication là, tu vois. Bien aimé, le premier amour là, j'essaie d'expliquer ça hier, le premier amour, je ne sais pas où est-ce que je trouvais les sujets de conversation quand je venais de rencontrer mon épouse. On parlait au téléphone 24 hours. Toute la nuit. Un jour, je me rappelle, je vais aller au travail. Je fais un examen où je vais aller au travail. Pendant qu'on parlait, j'entends « oui, 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 oui ». Je regarde, il était 5 heures du matin, le soleil sortait. Je dis « oh mon Dieu, on a parlé toute la nuit ». Je ne me suis même pas rendu compte de l'heure. Quand tu dis premier amour, il fait allusion à ça. Ou tu viens prier à Dieu, tu n'es pas en train de regarder la montre, en train de voir, ah, quand est-ce que je vais arrêter? Non, là, tu es en train de remplir une formalité. Dieu veut que tu le serves avec tout ton cœur à l'intérieur, pas en train de réfléchir. Faire trop de calculs avec Dieu, ça ne marche pas. Est-ce que vous me suivez? Je sers ta parole dans mon cœur, je la sers dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comme je vous ai dit, c'est une étude de cœur. Nous allons un peu étudier sur l'état de nos cœurs. Je vais partager un peu avec vous sur l'état du cœur pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui en nous est en train de résister à Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à répondre à Dieu comme Dieu le veut. Dans le livre de Luc, Dieu parle des cœurs et il dit ceci. Il parle de la semence, la parole qui tombe sur les terres. Et puis il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, la bonne terre c'est le bon cœur, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Est-ce qu'on peut dire honnête? Honnête veut dire sincère. Un cœur qui veut vraiment que Dieu agisse. Vous comprenez? Pas une hésitation. Honnête veut dire, quand je dis Seigneur, viens agir, I mean it. Je veux vraiment le dire. Et je suis prêt à répondre à l'exigence pour voir Dieu. Il dit un cœur sincère et honnête. Ceux-là, ayant entendu avec un cœur honnête, sincère, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Est-ce qu'on peut dire avec persévérance? Tu portes du fruit, si tu te tiens à la parole de Dieu, tu porteras du fruit. Et on va un peu parler des cœurs qui Voilà, on a parlé du bon cœur, mais parlons du cœur qui résiste. Peut-être que vous allez vous retrouver. Et si vous vous retrouvez, tout ce qu'on a à faire vraiment, c'est de se repentir, de demander la grâce de Dieu. OK? Les cœurs qui résistent à Dieu, la Bible donne plusieurs noms. Le premier nom que j'ai voulu trouver pour vous, c'est le cœur incirconcis. Écoutez-moi, ce ne sont pas les païens à qui Dieu parle. OK? Le cœur incirconcis. Dans Lévite, et vous allez voir ça partout. Et Dieu me dit, alors le cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Ici, Dieu ne parle pas aux païens. Dieu parle aux chrétiens, à Israël. Il parle de leur cœur incirconcis. Okay? Un cœur incirconcis, c'est un cœur encombré du vieil homme et de tous les soucis du vieil homme. C'est un cœur encombré des soucis du vieil homme. Et Dieu me dit, déchargez-vous du vieil homme et de ses œuvres. OK? Un cœur incirconcis, c'est un cœur encombré des soucis. Et il me dit ceci dans Matthieu, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Est-ce qu'on peut dire infructueuse? Autrement dit, tu reçois la parole qui peut te guérir, mais au lieu que la parole puisse produire, tu es tellement encombré des soucis. Qu'est-ce que je mangerai demain? Bien aimé, on a Dieu ou on n'a pas Dieu? Oui, je dois un peu faire ça, Attends une minute. Tu te soucies des choses qui n'ont de fois même rien à voir avec Dieu. La seule chose que Dieu demande que tu te soucies, c'est du royaume de Dieu. C'est la seule chose que Dieu demande. Le reste, la Bible dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Pourquoi? Les païens utilisent leur propre force pour la provision. Mais Dieu dit, moi, je serai votre provision, ne vous souciez de rien. Et d'ailleurs, il dit, en toute chose, faites connaître, parlez à Dieu, et que ces choses, il dit, déchargez-vous de vos soucis sur lui. Donc, laissez Dieu s'occuper, il est le bon berger, laisse Dieu s'occuper de toi. Toi, sois libre pour servir Dieu. Mon frère, viens un peu. Viens. Tu peux mettre les deux chaises ici ensemble, please. Oui, mets les deux chaises ensemble. Non, ensemble, oui. L'une sur l'autre. OK, porte la chaise. Voilà, comme un joug, voilà, merci. Bon, mais maintenant, commence à bénir le nom de l'Éternel. Il est encombré de soucis. Et quand Dieu essaie de te parler, il dit, je t'aime. Tu ne peux même pas l'aimer. Parce que tu es tellement encombré dans ta vie des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. La Bible dit, ceux qui se soucient de vêtements, se soucient de manger, tout ça sont les païens qui font ça. Me comprenez? Et puis Dieu dit, est-ce que vous ne savez pas que votre Père, qui nourrit même les oiseaux, peut vous nourrir vous? Tu passes tout le temps, dans ton cœur, on ne voit que problème. Donc, il n'y a que ça dans ton cœur. Tu médites sur ça, tu dors avec ça, tu rêves de ça, tu te réveilles avec, tu te balades avec, tu as même donné de nom, c'est mon problème, tu t'es encombré. Même Dieu qui veut t'aimer, il y a encore ça qui t'encombre. Il dit, ça devient un corps incirconcis parce que même la parole n'est pas active. La parole fait concurrence avec les soucis. Dieu dit, je vais t'aimer, mais tu dis, mais Seigneur, tu ne vois pas, regarde ma condition. Mais je te dis que je t'aime. Non, mais regarde ma condition. Dieu est en conflit, la parole n'est pas active en toi. Elle est en conflit. Cœur incirconcis, merci. Non, ce n'est pas toi, je pense. Elle me dit, les incirconcis. Bien aimé, quel est le souci qui est dans ton cœur maintenant qui prend la place de Dieu? Tu as tellement adoré ton problème. Tu lui as donné tous les beaux noms. Mon problème, oh, il est grand, il est insurmontable. Oh, mon problème, c'est une montagne. Oh, mon problème, il ne peut pas être résolu. Tu as donné tous les noms à ton problème. Tu l'as adoré. Pourquoi vous voyez? Mais c'est ce qu'on fait, non? Oh, mon problème. Au point où Dieu n'a même plus de place, tout ce qu'il dit est étouffé. Tu donnes tous les noms. Et Dieu dit, ce sont les païens qui se soucient de ces choses-là. Vous savez, il faut vraiment aimer Dieu au point
de commencer à recevoir ce qu'il dit sans résister. Parce que le monde, tout ça là, tout ce que tu entends, mais ça va te rendre aveugle. Si tu ne sais pas discerner l'amour de Dieu pour toi. Et puis il y a, ça c'est le premier cœur endurci. Hein? Qu'est-ce que je dis? Circoncis, incirconcis. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire encombré. Ok? Encombré. Un cœur encombré, c'est un cœur incirconcis. Le deuxième cœur, c'est un cœur endurci. Il dit, pourquoi endurcirez-vous votre cœur comme l'Égypte et Pharaon ont endurci leur cœur? Ici, Dieu parle pas aux païens, parle aux chrétiens. Il dit, pourquoi ton cœur est endurci? Endurci veut dire ceci. Tu as tellement écouté, tu es tellement habitué avec Dieu que maintenant Dieu est pour toi comme tous les gens que tu connais qui peuvent te mentir. Tu es habitué. Oui, je connais les promesses. Je connais même des gens qui disent, je n'aime plus écouter les prophéties parce qu'on a trop prophétisé, je ne vois rien. J'ouvre une parenthèse. Tais-toi, tu te prends pour qui? Dieu parle, tu dis, tu n'as plus besoin. En tout cas, je vois quelqu'un, non, j'ai trop entendu, d'ailleurs, je ne vois même plus cette chose-là. J'ai trop entendu les prophéties, je n'ai même plus écouté les prophéties. Tu te prends pour qui? Quand Dieu parle, sa parole va s'exécuter. Toi, tu dois accepter sa parole et ce qu'il attend de toi. Tu dois accepter sa parole. Un cœur endurci, il a tellement écouté, maintenant, il s'est refroidi. J'ai un oncle qui est karatéka. Je le vois, il frappe sur les murs, il frappe sur les briques, il frappe sur les morceaux de bois, ça se casse. Alors, je regarde ses knuckles. Comment on appelle ça? Ça, bon, je ne sais pas comment on appelle. Oui, ici, là. Hein? Les doigts. C'est tout noir et un peu gonflé. Tout noir et gonflé. Il ne sent plus rien. Quand tu grattes dessus, ça s'est endurci. Pourquoi? Oui, ça veut dire ceci. Que quand tu frappes la première fois, ça fait mal. C'est bon. Mais quand tu frappes souvent, tu deviens endurci. Tu ne reçois plus. Tu ne ressens plus rien. Alors, ça, c'est les chrétiens qui ont écouté les versets. Ils viennent à l'église tout le temps. Maintenant, ils sont habitués à venir à l'église. Ce qui se passe, quand Dieu agit, là, ça ne leur fait plus rien. La parole ne fait plus rien. Dieu, même maintenant, pendant que je parle, tu peux te dire, je vais sortir, tu vas rentrer comme tu es venu. Tu endurcis ton cœur. Si la parole ne te change plus, ton cœur est endurci. Il y a des gens, ça veut dire que tu vas rester intact. La parole, on a parlé. Tu résistes à la parole au point où elle ne te fait plus rien. Tu ne sens plus rien. Il y a un autre cœur. Un cœur pas tout entier. Pas tout entier à Dieu. Half and half. Un peu comme le milk. Half and half milk. Un cœur dilué. Indécis. Oui, tu es tantôt. Tantôt tu aimes Dieu. Tantôt, tu fais autre chose. Tantôt, tu fais pour Dieu. Tantôt, tu fais autre chose. C'est un cœur qui est complètement détourné. Et ici, le cœur était détourné parce que David, parce que Samson s'était approché d'autres dieux. Maintenant, il avait d'autres dieux. Il avait et Dieu et les autres dieux de ses femmes. On va aller vite pour ma pas de temps. Un cœur qui n'est pas tout entier à Dieu. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec autre chose. Tu ne peux pas servir Dieu et servir autre chose. Tu ne peux pas dire que tu vas donner ton temps à Dieu et en même temps, quand il te le demande, tu t'excuses parce que tu as autre chose à faire. L'Éternel fut irrité. Ça, c'est un cœur détourné. Okay? Il fut irrité contre Salomon parce que son cœur était détourné. Il y a un cœur gras. Je vais vous montrer ça. Un cœur gras, ça veut dire, Dieu disait à Israël, votre cœur est rempli. C'est comme graisse, un cœur lourd, difficile, lent à faire la volonté de Dieu. Lourd, quand Dieu te parle, tu as un cœur lourd, tu réagis avec lenteur. Tu n'es pas prompt quand Dieu te parle. Quand Dieu te parle, tu... Mais moi... Et puis un cœur gras, c'est un cœur... Vous savez ce qu'on appelle insulation? Insulation. Quand il fait... Ouais. Il y a des choses qu'on met à l'intérieur. À l'intérieur des murs pour garder la chaleur. OK. C'est un peu comme quand il fait froid, on porte les manteaux. La partie là, c'est pour nous protéger. Donc un cœur gras, c'est un cœur
qui se protège contre la parole de Dieu. Donc quand Dieu parle, tu portes comme un insulation. Tu bloques, ça ne te fait rien. Un corps gras. Et puis on a parlé d'un corps qui est devenu insensible. C'est ça, non? Qui ne sent plus rien. Ok? Un corps de pierre. Ça en tout cas, ça m'a intéressé. Un corps de pierre. Et ce sont des chrétiens. Un corps de pierre, c'est un cœur où rien ne peut, un caillou, rien ne peut entrer, rien ne pénètre. Vous voyez les cailloux qu'on trouve à l'eau là? Non. Dieu dit ceci, je vous donnerai un corps nouveau, je mettrai à vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous, de votre corps, le corps de pierre, parce que Israël était devenu impénétrable. Ici on parle des juifs, pas les païens. Les païens. Un corps de pierre, un corps qui refuse d'écouter Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas les païens, les chrétiens. Pas seulement les chrétiens, on ne va pas aller loin. Nous ici, vous pensez qu'on est totalement en train d'écouter Dieu. Il ne faut pas aller loin là-bas chercher les pauvres païens qui, eux, déjà ont déjà décidé de ne pas écouter Dieu. Même nous ici, on résiste à Dieu tout le temps. Peut-être que tu as un cœur de pierre. Peut-être que tu as un cœur gras. Peut-être que tu as un cœur insensible. Peut-être que tu as un cœur incirconcis. Peut-être que tu as un cœur détourné. Tu aimes autre chose plus que Dieu. Tu préfères le match de football plus que Dieu. C'est un cœur détourné. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Je vais faire cette prière et nous allons nous séparer. Seigneur, mon Dieu, nous avons appris qu'une vie de miracle et de gloire, c'est quand nous mettons en pratique ta parole. Parce qu'il a dit, si nous sommes, parce que tu dis, si nous sommes, nous avons une bonne volonté et nous sommes dociles, malléables, soumis, nous mangeons les meilleures productions du pays. Père, notre condition indique qu'on a besoin de nous soumettre encore davantage. Parce que je suis convaincu, mon Dieu, qu'il y a des meilleures productions que je n'ai pas encore eues. Et peut-être mon frère, ma soeur, aujourd'hui aussi croit qu'il y a des choses qu'elle n'a pas encore eues, qu'il n'a pas encore eues. Alors ma prière, mon roi, et que tu es comme celle de Salomon, incline nos cœurs vers toi. Ramollis nos cœurs, mon Dieu. Donne-nous, comme tu as dit à Israël, au lieu d'un cœur de pierre, donne-nous un cœur de chair, un cœur sensible à toi, un cœur circoncis. Donne-nous ce cœur-là. Fais-nous grâce, mon Dieu. Ramollis nos cœurs. Au nom de Jésus. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que ces temps, pendant ces temps que nous passons dans ta présence, mon roi, ma prière, mon Dieu, est qu'à la fin de ces temps, nos cœurs soient de cœur, de chair. S'il y a un domaine dans nos vies, comme tu as dit, il y a l'autre cœur qui est un cœur partagé ou un cœur. Oui, un cœur partagé, un cœur qui ne sait pas se donner tout entier à toi. Nous voulons avoir un cœur tout entier à toi, pas partagé, Père. Donne-nous la grâce d'avoir un cœur tout entier. Pas tantôt on aime ceci, tantôt on aime cela. Tu es aussi inclus dans la liste des choses qu'on aime. Non, toi tu dois être supérieur au-dessus de toute autre chose. Il faut que sur cette terre, on ne trouve rien qui puisse nous plaire comme toi. Il faut que toute autre chose, mon Dieu, pâlisse. La beauté de toute chose, mon Dieu, fane quand on te regarde toi. Que toute autre chose fonde comme la cire quand on pense à toi. Au nom de Jésus, rends-nous encore passionnés de toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire je reçois? Que Dieu vous bénisse et bonne nuit.